Et on va parler du Covid long avec mon invité ce matin. Le Covid long, vous savez, c'est cette persistance d'effets secondaires après une infection au Covid-19. À Toulouse, l'association Tous Partenaires Covid a vu le jour pendant l'été 2020. Objectif, recenser et améliorer la prise en charge de ces patients. Bonjour Jean-Louis Fraisse.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous recevoir.
Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en pharmacie industrielle, membre du conseil d'administration et du conseil scientifique de Tous Partenaire Covid. L'association rassemble des personnels de santé, des malades et des personnes de la société civile également, notamment des professeurs de Toulouse Business School. C'est une association qui est née à Toulouse mais qui est présidée, on va rendre à César ce qui est à César, présidée par un corésien, Jean-Marc Comas. Alors, avant de nous dire comment vous intervenez, quelle est l'action de cette association face à notre problématique, on va s'arrêter justement sur ce qu'on appelle le Covid long. D'autant que mercredi dernier, l'Assemblée nationale a adopté une résolution reconnaissant la souffrance des personnes victimes de symptômes prolongés du Covid-19. Alors, même s'il reste à définir la couverture sociale qui va avec cette reconnaissance, Jean-Louis Fraisse, on imagine que c'est une lueur d'espoir pour les malades dont certains vivent un enfer, je crois. Hein.
Alors oui, c'est une lueur d'espoir très importante puisque c'est un texte qui a été porté par les politiques, porté par les associations avec trois ambitions. D'abord de demander des moyens supplémentaires pour la recherche parce que vous savez que la Covid c'est une maladie nouvelle qu'on ne connaît pas bien, donc on a besoin encore de comprendre et donc pour cela de faire de la recherche objective. Deuxième objectif, c'est de créer des filières de soins parce qu'aujourd'hui on a des patients qui ne sont pas correctement pris en charge, non pas qu'on veuille pas les prendre correctement en charge, mais parce qu'ils sont en déshérence et quelquefois ils se signalent pas correctement non plus. Et troisième chose, en fait, la reconnaissance de la maladie comme une maladie professionnelle. Alors évidemment, il y a des pas à accomplir encore pour arriver, pour aboutir, mais c'est un énorme pas qui a été franchi par les députés.
On imagine que les malades voient le bout du tunnel arriver. Quand est-ce qu'est apparue pour la première fois cette dénomination, cette appellation de Covid long ?
Alors, on parle de Covid long, également de Covid persistant. Et donc, évidemment, le Covid en France, c'est au début de l'année dernière. Donc, on a commencé à parler de Covid long bien avant l'été de l'année 2020. Et donc, évidemment, on s'est intéressé très rapidement à ces personnes qui avaient eu le Covid et qui, plus d'un mois après, cinq semaines après, avaient encore des symptômes persistants. Et donc, du coup, c'est de là que est née cette prise en charge et cette attention toute particulière à ces syndromes.
Et alors, justement, les symptômes de ce Covid long, vous allez nous les donner, quels sont-ils ? Même si ceux qui en sont touchés savent bien les reconnaître.
Alors oui, je pense que les personnes qui en sont touchées savent bien les reconnaître, mais en tout cas, on a des problèmes pulmonaires qui sont persistants, on a des problèmes de fatigue, on a aussi quelquefois des problèmes cardiaques, mais surtout, ce que décrivent les gens, c'est une vie en dents de scie. C'est-à-dire que les gens, il y a des jours où ils sont très très bien, ils sont plutôt très bien. Certains même nous racontent qu'ils font du sport et tout va bien. Et puis, le surlendemain, ça ne va plus du tout, ils sont couchés. Et donc, on assiste comme ça à une vie compliquée et en dents de scie pour ces personnes-là, avec des problèmes, je le disais, psychologiques souvent très importants et des difficultés pour travailler normalement.
Et oui, parce qu'au-delà du caractère invalidant des symptômes pénibles que vous décrivez, la fatigue, un problème autour des poumons, ces patients ont longtemps souffert, je crois, je parle sous votre contrôle, d'un manque de reconnaissance. Autrement dit, et dit très simplement et abruptement, pardon à ceux qui nous écoutent, on les a longtemps pris pour des malades imaginaires.
Alors oui, mais tout d'abord au sein de leur famille, parce qu'un certain nombre de nos adhérents nous disent, alors de moins en moins maintenant, heureusement, parce que le Covid persistant et le Covid long, on en parle de plus en plus, mais certains nous disaient qu'ils avaient besoin de faire comprendre à leur famille qu'ils étaient malades, de faire reconnaître à leur famille qu'ils étaient malades, et au-delà de la famille, bien sûr, au système de santé, de manière à ce qu'ils puissent être pris en charge par les médecins de premier recours qu'ils voient régulièrement. Donc, en effet, ça a été de dire montrez-nous, aidez-nous à montrer qu'on n'est pas des malades imaginaires.
Et puis, après, une fois que la famille a été convaincue, c'est le médecin aussi qu'il faut convaincre.
Alors, exactement. Donc, c'est les soins de premier recours. Et donc là, ben, évidemment, ces médecins-là, il faut bien se souvenir aussi qu'on était en pleine épidémie, qu'aujourd'hui, on connaît de plus en plus de choses, mais qu'à l'époque, on en connaissait moins, et que les personnels de santé étaient complètement démunis par rapport à ça. Donc, tout le monde avait besoin d'avoir des repères et avoir des recommandations dans ce domaine, ce à quoi nous travaillons avec l'État. On en parlera, j'imagine.
Et oui, effectivement, on est là ensemble pour ça, avec des conséquences, on imagine, terribles hein, pour ces malades, un sentiment d'abandon, d'isolement qui entraîne des difficultés à travailler, donc des absences au travail également.
Et oui, bien sûr, puisqu'on a un certain nombre de patients qui nous expliquent que, bon, évidemment, ils ont envie de retourner travailler parce que c'est long, hein, les mois passent, c'est long, mais qu'ils sont incapables, certains, de tenir toute la semaine, d'aller au travail toute la semaine, que le lundi, le mardi, ça va, mais le mercredi, c'est compliqué. Donc, un certain nombre sont encore aujourd'hui en mi-temps thérapeutique.
Alors, les études sont encore à prendre avec des pincettes. Hein, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais on estime, je crois, je parle sous votre contrôle, hein, que cette situation de Covid long concerne plus de 20% des patients 5 semaines après leur premier symptôme et toujours plus de 10% d'entre eux au bout de 3 mois. Ça, c'est selon les données de l'Office national des statistiques britanniques. Vous confirmez ces chiffres ?
Alors oui, 20% après 5 semaines. Par contre, moi, les chiffres que j'ai en tête, c'est 10% au bout de 6 mois.
Ce qui
rallonge la durée. Et là, il y a une étude très intéressante chinoise qui est parue en janvier, qui porte sur 1733 patients et qui dit que 76% des patients hospitalisés, des patients qui ont été hospitalisés avec le Covid, ont encore un symptôme 6 mois après. Mais là, ce sont des patients hospitalisés, à ne pas confondre avec le pourcentage de patients tout à l'heure qui étaient, entre guillemets, tout venants, qui n'avaient donc pas été tous hospitalisés, donc avec des formes moins graves.
Et alors, est-ce qu'on sait pour quelles raisons certaines personnes continuent à avoir des symptômes longtemps après et d'autres non ?
Alors aujourd'hui, on ne sait pas bien, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un certain nombre d'équipes en France de la recherche, pour mieux comprendre tout cela, parce que évidemment, on voit bien que il y a un certain nombre de facteurs liés à la personne qui font que on gère le Covid complètement différemment les uns ou les autres, et c'est pour ça que à l'Assemblée nationale, on a demandé des moyens supplémentaires pour mieux comprendre cette maladie. On voit bien que les hommes et les femmes se comportent différemment et qu'après, il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent intervenir.
Une prévalence de femmes ?
Alors, il y a un certain nombre de femmes en plus. Nous, on voit par contre dans nos études qu'il y a plus de répondants femmes. Donc, ce qui fausse un peu les statistiques. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça doit être observé de près pour voir s'il y a une prévalence liée au sexe et à d'autres facteurs qu'on ne connaît peut-être pas encore complètement aujourd'hui.
Alors à ceux qui nous rejoignent, je rappelle que nous sommes en compagnie de Jean-Louis Fraisse, membre du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'association Tous Partenaires Covid, une association qui recense et qui aide les malades atteints de Covid long. Alors justement, hein, qu'est-ce que vous proposez à Tous Partenaires Covid face à la problématique que l'on vient de dénoncer ?
Alors Tous Partenaires Covid, il faut le rappeler, c'est d'abord une association nationale. Et quand nous avons créé l'association, l'objectif, c'était de fournir à nos adhérents des informations fiables sur le Covid, parce qu'évidemment, il y a un certain nombre de choses qui circulent et qui circulent encore. Et l'objectif est de fournir de l'information fiable. Ça, c'était le premier. Le deuxième objectif, c'était de permettre à des patients d'échanger ensemble et de permettre à des patients d'objectiver le fait qu'ils étaient bien malades, comme on le disait tout à l'heure. Et aujourd'hui, on organise des webinaires et on organise également des interviews de patients de manière à mieux comprendre ce qu'ils vivent. Et troisièmement, à partir du mois de décembre, nous avons mis en ligne sur notre site trois questionnaires. Un premier questionnaire qui permet aux patients de faire le point sur la maladie lorsqu'ils ont le Covid, au moment du Covid.
Covid classique.
On a le Covid. On va sur le site Tous Partenaires Covid, partenaires avec un S.org. Et là, on a un premier questionnaire qui permet de faire une checklist en répondant très simplement à un certain nombre de questions. Il y en a un peu beaucoup de questions parce qu'on a besoin d'être précis. Donc là, on fait le point sur son Covid à l'instant T. Et ensuite, deux autres questions. Un questionnaire physique qu'on propose aux patients de remplir toutes les semaines, on les relance d'ailleurs, et un questionnaire psychologique qu'on propose aux patients de remplir tous les mois. Ces deux derniers questionnaires, le questionnaire physique et le questionnaire psychologique, on le voit, sont remplis régulièrement dans le temps et nous permettre justement d'avoir des informations sur l'évolution de la maladie. Et ça, c'est très, très important puisque c'est des questionnaires qui ont été rédigés par des scientifiques, par le corps médical, par des chercheurs. Et du coup, ils ont une méthodologie très éprouvée qui nous permettra derrière de publier, d'avoir des enseignements fiables.
Alors, 3000 personnes, je crois, ont déjà répondu à ces questionnaires.
Alors aujourd'hui, oui, on a 3000 réponses à ces questionnaires. Et donc, ça grossit tous les jours. Donc, on va être la première base de données de réponses françaises dans ce domaine.
Alors, j'insiste sur le côté sérieux de l'affaire. Vous avez beaucoup de médecins parmi vous. Jean-Jacques Romatet, l'ancien directeur du CHU de Toulouse, fait partie également du conseil d'administration. Il y a des infectiologues, des anesthésistes, oncologues, oui. Beaucoup de médecins de Toulouse également.
Alors, beaucoup de médecins de Toulouse. On a un conseil scientifique qui regroupe des médecins et des professionnels, mais aussi des personnes de la société civile de toute la France. Mais on a une grosse représentation toulousaine, puisque l'association est née à Toulouse et comme vous le rappeliez tout à l'heure, le président Jean-Marc Comas, lui, est bréviste et il a eu le Covid. Je voulais juste revenir sur les questionnaires pour dire que, évidemment, on collecte beaucoup de données de santé et que les données de santé en France sont sensibles. Il faut y être très attentif. Donc, nos questionnaires sont totalement sécurisés, hébergés selon les normes dites HDS en données de santé. Donc, les personnes, les patients peuvent nous confier leurs données. Elles sont passées devant l'espace régional d'éthique régionale. Donc, du coup, toute confiance dans la gestion de la donnée de santé.
Et c'est quoi mon intérêt à moi? Admettons, j'ai le Covid. Le Covid se transforme en Covid long puisque quelques mois après j'en suis toujours là. Ça me sert à quoi moi de savoir que d'autres ont les mêmes symptômes?
Alors, eh bien, ça vous sert peut-être à objectiver le fait que si vous êtes fatigué, c'est pas comme ça parce que c'est le printemps ou c'est l'automne ou c'est je sais pas quoi. Mmh. C'est peut-être parce que ce sont des séquelles du Covid. Et ça va vous permettre aussi de vous dire que si vous avez un symptôme pulmonaire ou des problèmes de goût, d'odorat qui reviennent peut-être pas bien, vous allez dire ben là, il faut que j'aille consulter parce que c'est peut-être pas normal. Donc, c'est très important de répondre à ces questionnaires. Dans quelques semaines, on aura une solution tout à fait nouvelle sur notre site internet. Les personnes, de manière anonyme, bien sûr, qui vont venir sur notre site en rentrant leur âge et leur sexe, pourront comparer leurs symptômes par rapport aux symptômes de tous les répondants. Et donc, du coup, ça permettra de se situer pour voir où est-ce qu'on en est du Covid.
Et alors, après cette base, ce terreau d'informations, est-ce que vous allez également le mettre à disposition des autorités et contribuer? C'est une forme de recherche, de science participative.
Alors, bien sûr, c'est une forme de recherche collaborative.
Collaborative, oui.
Puisqu'en fait, toutes les personnes, on l'a dit, société civile, malade, professionnel de santé, mettre en commun ces données. Et bien sûr, là, elles sont en train d'être analysées par des spécialistes. Et ça va être le cas dans une quinzaine de jours. On va les mettre à disposition de la Haute Autorité de Santé, mais également de toutes les instances de l'État qui en auraient besoin pour avoir des éléments supplémentaires. Et évidemment, nous intervenons dans des groupes de travail à la Haute Autorité de Santé en tant que patients, association de patients, de manière à peser sur les recommandations et sur les documents qui peuvent sortir sur la prise en charge et la reconnaissance du Covid.
Et justement, comment est-ce que vous intervenez sur une meilleure prise en charge de ces malades? Parce que c'est là aussi que le problème se situe, les généralistes sont complètement désemparés.
Alors, les généralistes sont de moins en moins désemparés parce que, évidemment, on comprend de mieux en mieux la maladie. Avec les mois qui passent, évidemment, on est de plus en plus au fait. Mais en effet...
Vous avez une action auprès d'eux ?
Alors, on a une action via la Haute Autorité de Santé, puisque au mois de janvier, la Haute Autorité de Santé, on peut les retrouver sur son site, a publié un certain nombre de fiches pratiques à destination des professionnels de santé et certaines à destination des patients, de manière à ce que le professionnel de santé puisse voir de manière objective des symptômes décrits parfaitement et des propositions également de prise en charge. Et là, on travaille évidemment et on porte ce besoin de constitution, de filière. On en parlait tout à l'heure, de manière à ce qu'un patient qui a à la fois des problèmes pulmonaires, des problèmes de locomotion, des problèmes de goût, se retrouve pas complètement à aller voir là tout seul tous les médecins saucissonnés, comme on le disait, des médecins spécialiste de l'organe en question, mais que ben, il y ait une filière et une prise en charge un peu plus globale dans lequel on va l'orienter et on va pouvoir ben, l'aider à retrouver ses repères et avoir un diagnostic correct. Donc ça, c'est cette notion de filière qu'on défend.
Que vous défendez, qui n'existe pas encore, qui pourrait voir le jour quand ?
Et on espère qu'il verra le jour dans l'année. Après, bien sûr, ça demande des moyens. On sait que le corps médical aujourd'hui est en tension, est soumis à beaucoup de besoins, il est fatigué. Donc évidemment, tout ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Mais croyez bien que le ministère de la Santé y réfléchit et le prend très, très, très au sérieux.
Je n'ai pas parlé des variants. Est-ce que ça a une incidence ? Est-ce que vous pouvez déjà le comptabiliser sur les effets du Covid long ? Pas encore ?
Alors, nous, aujourd'hui, dans nos questionnaires, on ne le voit pas encore. En tout cas, on n'en a pas tiré les conséquences. Mais évidemment, ce qu'on peut lire dans les publications scientifiques à droite ou à gauche, on voit bien que les variants prennent de plus en plus d'importance, en particulier le variant anglais, qui, dans certaines régions, dépasse les 40% de cas.
Allez, dernière question. Espérons donner un peu d'espoir à ceux qui nous écoutent. Avec un an de recul, Jean-Louis Fraisse, est-ce qu'on a des Covid longs dont les symptômes sont définitivement terminés ?
Et Dieu merci, oui. Ah. Évidemment, on a des personnes qui guérissent complètement et on espère que ça va être la majorité. Donc oui, bien sûr, une lueur d'espoir. Mais en tout cas, il y a aussi des gens qui ne sont pas guéris et des gens qui souffrent. Donc c'est à eux aujourd'hui qu'on pense.
Et c'est à eux que vous avez, c'est pour eux que vous avez créé cette association Tous Partenaires Covid, partenaires avec un S, toutattaché.org. Merci beaucoup Jean-Louis Fraisse pour ces éléments d'information extrêmement clairs. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, hein, si vous avez le Covid, allez sur ce site, vous vous enregistrez, puis vous vous laissez guider. Vos questionnaires servent pour vous, servent aux autres à constituer, on l'a compris, hein, des filières de soins. Merci beaucoup à vous.
Merci et bonne journée.